Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire, améliorer la gestion de votre entreprise ou encore gagner en visibilité digitale?
Le FAFCEA vous accompagne financièrement dans vos projets de formation.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Et ça ne va pas changer durant la Coupe du Monde. Sachez que, à partir de demain, RMC Radio, officielle de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022, 300 heures de direct dédiées au Mondial. Tous les matchs commentés, vous allez suivre les 64 matchs de la compétition. Antenne de 14h à 1h du matin en direct de Doha. Soyez bien avec nous, on est très heureux. David Douillet, toujours avec nous. Olivier Giraud, Marion Bartoli, Renaud Longuèvre. Dans quelques instants, le bras de fer des GG. La guerre est déclarée entre les deux pilotes Red Bull. Il va falloir choisir son camp. Une team Max Verstappen, une team Sergio Pérez. À 11h30, les GG tout terrain. Tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. Aujourd'hui, évidemment, l'ambiance au Qatar à la veille de la Coupe du Monde. Nos envoyés spéciaux sont sur place depuis une semaine. Les artistes entrent dans l'arène. La guerre est déclarée entre Max Verstappen et Sergio Pérez après le Grand Prix du Brésil le week-end dernier. Le champion du monde a refusé de laisser passer son coéquipier chez Red Bull dans le dernier tour, le privant de points précieux dans la course à la deuxième place au classement du championnat du monde. Réaction furieuse de Pérez dans sa voiture. Ça montre qui il est réellement. Réaction froide de Verstappen. Je vous ai déjà expliqué. Les gars, ne me demandez plus jamais ça. Sommes-nous clairs là-dessus? Comprenez? Ne me demandez plus de le laisser passer. On l'appelle Max la menace, mais on pourrait l'appeler aussi Max la tenace. Le Néerlandais n'aurait toujours pas digéré les qualifications du Grand Prix de Monaco en mai dernier. Sergio Pérez, troisième temps, aurait fait exprès de provoquer un accident en fin de Q3 pour éviter que son coéquipier ne fasse un meilleur temps que lui. Histoire résumée. Les GG, dans quel camp êtes-vous? Dans le coin gauche, la team Verstappen, Renaud Longuèvre, David Douillet.
Ouais.
Dans le coin droit, la team Pérez, Marion Bartoli, Olivier Giraud.
Ouais.
C'est
ouais.
Parti, ça va chauffer, ça va saigner. Pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort? L'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous êtes nombreux depuis ce matin à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Un point d'étape, mais ce n'est pas joué, même s'il y a un écart tout de même. Team Pérez, largement devant, 61%. Yes. Team Verstappen, largement derrière, donc 39%. C'est de coutume, vous êtes derrière la Team Verstappen, donc vous attaquez ce débat, vous consolidez, vous mettez toutes vos forces dans la bataille pour essayer de renverser la situation.
Bonne chance.
Bonne chance.
Bonne chance.
Renaud Longuèvre, c'est ton premier bras de fer des GG. Tu commences. Pourquoi Team Verstappen? Renaud Longuèvre.
Parce que tout simplement, la demande, elle est arrivée dans le casque beaucoup trop tard. On a parlé tout à l'heure du management de Cristiano Ronaldo, où moi je reconnais que ça avait été maladroit. Mais là, c'est pareil, c'est du management humain. Il y a chez Red Bull des gens qui auraient dû faire leur travail bien en amont, s'asseoir quand il n'y a pas de tension, quand tout est calme, préparer ces choses-là, les anticiper. Là, ce n'est pas le cas. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est un immense champion Verstappen, tu ne peux pas arriver champion du monde de F1 si tu n'as pas l'envie d'être le premier. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de laisser passer quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Je veux dire, c'est contraire au principe même du sport. C'est contraire au principe même du sport. Donc moi, je me mets à la place de Verstappen, mais je ne serai jamais à la place de Verstappen. Allez, je n'y arrive pas à la cheville. Et je ne suis pas d'accord. On laisse pas passer quelqu'un pour taper Leclerc à finir deuxième au lieu de troisième du championnat du monde. Le championnat du monde, il est plié depuis longtemps. Il y a un champion du monde, c'est Verstappen.
Ok, la défense maintenant de Verstappen. On va commencer par Marion parce qu'on sait que tu l'aimes pas trop. Pourquoi le camp Pérez?
Non mais là, Renaud, les bras m'en tombent. Là, je t'adore, hein. Mais là, tes arguments, j'arrive pas, vraiment pas à les comprendre. On a Verstappen, qui est déjà champion du monde, qui n'a absolument plus rien à jouer, qui a déjà le nombre de victoires maximales et le record en une saison, qui est 7e ou 8e sur ce Grand Prix où de toute façon il est dans les choux. Il y a Pérez qui a été son lieutenant, mais même il aurait pu lui cirer les chaussures l'année dernière, qu'il l'aurait fait pour permettre à Verstappen de gagner le championnat du monde contre Lewis Hamilton sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, où s'il résiste pas devant Hamilton pendant, je crois, entre 10 et 15 tours pour permettre à Verstappen de revenir derrière et arriver à coller à la fin Hamilton et finalement le dépasser. On sait très bien, pour des accidents de course, ça a d'ailleurs coûté la place. À Massi, il aurait été jamais champion du monde, Verstappen. Et là, on lui demande de laisser passer son coéquipier qui a tout fait pour lui l'année dernière, pour simplement que lui, effectivement, puisse terminer deuxième du championnat. Et c'est important pour Red Bull. Alors que de toute façon, Verstappen n'a plus rien à jouer, que ça change rien à la manière dont il va terminer. À la manière dont il va terminer cette saison, parce que de toute façon, il est champion du monde. Et je vais rappeler, pour Renault, la différence de classe entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On est en 2017. On est au Grand Prix d'Hongrie. Les Ferrari sont en tête. Hamilton joue le titre de champion du monde avec Vettel. C'est la bagarre depuis le début de la saison. Les deux Ferrari sont en numéro 1 et numéro 2. Bottas est 3e, Hamilton est 4e. On demande à Bottas de s'écarter pour permettre à Hamilton de tenter de rattraper une des Ferrari, ce qu'il n'arrive pas à faire. Mercedes, dans le casque, en plein Grand Prix, dit à Hamilton, tu laisses la place et tu redonnes la place à Bottas puisqu'il était 3e. Hamilton redonne la place à Bottas qui est 3e et qui termine sur le podium. Alors que là, ça avait vraiment l'importance pour jouer le titre de champion du monde. Donc, ce que Verstappen a fait, c'est totalement inadmissible. Alors il a beau essayer maintenant de sortir l'erreur en disant oui, je vais être gentil pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi parce qu'effectivement j'ai peut-être commis une petite erreur. C'est inadmissible et c'est lamentable.
Ok, le camp Verstappen, David Douillet.
C'est pas vrai tout ça, c'est pas vrai, Marion.
Qu'est-ce qui est pas vrai?
Vous connaissez...
Je t'ai sorti tous les faits, tout est absolument vrai.
Non, il y a un truc qui est simple et Renaud l'a dit brillamment d'ailleurs, mon cher Renaud. Tu connais le truc, on fait pas un âne d'un cheval de course. Bon, et si tu fais l'inverse, un cheval de course peut difficilement devenir un âne. Et c'est précisément ce qui se passe.
Ah, parce que tu dis qu'Hamilton est un âne.
Grand Prix.
Laissé passer à Bottas parce que c'est un âne.
J'ai pas dit ça. Je te parle de la psychologie d'un pilote. Et tu sais très bien que ils se mettent la rate au courbouillon, ils sucent sang et eau, etc., etc., pour obtenir des baquets, pour se qualifier, pour arriver dans cet univers de la F1. Et quand ils y sont, ils ont toujours la même mécanique. Et ça, cette mécanique-là, c'est au plus profond de leur ADN. Et tu peux pas le changer comme ça, avec un ordre dans un casque. Alors certains sont en capacité de le faire, Hamilton, et c'est très bien, tant mieux pour lui. Et puis d'autres, c'est comme ça. Peuvent pas le faire. C'est génétiquement pas possible.
C'est pour ça qu'il y a des directeurs de course qui leur demandent de le faire.
Je sais,
parce que sinon, il n'y a plus de règlement, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus rien.
Ils ont reconnu leur erreur chez Red Bull.
Le gars, il est dans le baquet, il est dans sa course. Je veux dire, tu sais ce que c'est d'être dans une bagnole concentrée, tu vois, à un moment donné, il y a beaucoup de paramètres qui t'échappent, et tu peux pas raisonner avec autant de recul comme toi tu le fais, et de belle manière d'ailleurs, que un type qui est dans son baquet, dans sa bagnole, dans une course, et qui est là dans ce truc où il est à 200 pulsations minute, et que chaque virage, chaque freinage, chaque frôle, chaque truc, il y a tellement d'émotions qui se passent, tellement de dureté, tu peux pas réfléchir de la même manière.
Mais Marion, mets-toi
dans les mêmes conditions.
Mais je te jure, c'est pas vrai.
Après Olivier, David. Non, c'est pas vrai. Tu te rends compte, on te donne un ordre dans un putain de casque où ton ADN c'est celui d'être un tueur à gages, et on te dit deviens un agneau alors que t'es en pleine bourre. Non mais c'est impossible. Enfin, c'est très dur à faire.
Ok, juste.
Ça me fera bien rigoler quand l'année prochaine Hamilton sera dans les roues de Pérez et que Pérez laissera passer dès le premier tour pour Verstappen une seconde de retard à chaque tour. Ça me fera vraiment bien marrer.
Hamilton, il a plus envie de courir.
Olivier Giraud, Hamilton. La team Pérez, Olivier Giraud.
Et avant de parler d'eux, je voudrais te raconter un truc. C'est, par exemple, Alonso et Ocon, c'est pas des potes. Hein. Alonso, il mange champion du monde plusieurs fois. Et ben le seul Grand Prix qu'a gagné Ocon, c'est parce que Alonso s'est sacrifié. Alors que pour que Ocon gagne son Grand Prix. Bon, on va parler d'un truc, c'est que là on vient de voir. C'est un grand champion, Verstappen. On l'aime, on l'aime pas. C'est un grand champion. Mais là, on a vu ses limites et sa jeunesse. Parce que ce coéquipier, aujourd'hui, il n'en avait pas besoin parce qu'il était largement devant. Il a envie de battre tous les records, soit. Ce que ça va créer, parce que ça sera irréconciliable, hein, surtout quand la mère de Verstappen commence à tweeter, même si elle les efface. C'est irréconciliable. Et je pense que l'année prochaine, chez Red Bull, on risque de se retrouver dans une situation, même si là, on essaye de tout calmer, Rosberg-Hamilton. Et que ça va peut-être être la meilleure année, parce que à ce moment-là, quand celui qui t'a fait gagner, pas cette année, mais l'année d'avant, eh ben, tu ne le respectes pas, il ne te respectera plus. Il y a un truc qui s'appelle l'undercut, et qu'il faut vraiment, et c'est là que tu as besoin le plus de ton coéquipier. Ils n'en avaient pas besoin cette année tellement ils étaient forts. Tu as vu la fin de saison? Les Mercedes, l'année prochaine, risquent d'être hyper concurrentiels. Et que quand, l'année prochaine, ils vont se retrouver à se battre contre Mercedes, et qu'ils ne s'entendent pas à l'intérieur, et c'est cette action qui s'est passée là, cette action-là, eh ben, elle va avoir des répercussions l'année prochaine sur la saison de Red Bull.
Bravo Olivier.
Je reprends tu les sais, copains, vous avez tous pu... Mais c'est pas fini ce débat, vous avez tous pu donner votre observation. C'est un premier round, dans quelques instants on poursuit le bras de fer des GG. Ah. Mais on va faire un point d'étape tout de même. J'ai quelque chose à vous faire écouter, mais j'ai également un sondage à vous donner. Il y a quelques instants, nous sommes partis à 39-61, 39% pour la team Verstappen, 61% pour la team Perez. Ça évolue un petit peu, 40% pour la team Verstappen, 60% pour la team Perez. Yeah. Quelques arguments ont peut-être fait mouche, pièce à condition.
À ce rythme-là, dans deux jours, on vous dépasse.
Mais bien sûr. Et moi, l'année prochaine, je skie au mois de juillet. Bien sûr. David.
Oui, c'est ça.
Pièce à conviction. Ce qu'il s'est passé dans le dernier tour avec les radios des deux pilotes. Écoutez bien, Verstappen, Perez.
Max, laisse passer Perez, s'il te plaît.
Max,
qu'est-ce qui se passe ?
Je vous l'ai déjà dit l'été dernier, les gars. Ne me redemandez pas ça. Sommes-nous clairs là-dessus ? J'ai donné mes raisons et je m'y tiens.
Max ne te laissera pas passer.
Merci pour ça, les gars. Merci.
Désolé, Checo. On débriefera tout ça après.
Il montre qui il est vraiment.
Et Red Bull a eu le temps évidemment de débriefer et a dégainé un communiqué cette semaine. En équipe, nous avons commis des erreurs au Brésil. Nous n'avions pas envisagé la situation qui s'est déroulée dans le dernier tour et nous n'avions pas convenu d'une stratégie pour un tel scénario avant la course. Malheureusement, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la demande d'abandon de sa place, sans que toutes les informations nécessaires ne soient relayées. Sortez la flûte de pan.
Merci
beaucoup.
Bien sûr.
Non, mais est-ce que les deux peuvent encore s'entendre tellement. Olivier Giron,
ils peuvent pas s'entendre, mais c'est surtout, je vais démonter votre argument. Ils sont dans la voiture, je sais pas combien. Il est hyper cool hein, quand il parle. Hein.
Ouais, exactement. L'été dernier, je vous l'ai dit. Je vous ai donné mes arguments.
Et l'autre, il est hyper lucide aussi. Il fait OK, c'est bon, j'ai compris.
C'est le principe même du métier. Si t'es pas cool, tu peux pas conduire.
Exactement. Non,
mais c'est le principe même du métier.
Mais c'est plus les voitures qu'avaient Prost et Senna à l'époque.
Olivier, et surtout Marion, vous êtes beaucoup trop dans l'affectif parce que
tout à l'heure,
vous avez été super indulgent avec Cristiano Ronaldo en disant c'est un immense champion, il a un ego de dingue et tout, respectez ça. Et là,
Je reprends l'argument.
Chaque fois que tu me dis que j'arrive, tu n'y arrives jamais.
Hein. Oh, je sais pas, on va réécouter.
Tu l'as fait deux fois tout à l'heure.
On a réécouté toutes les bandes et j'arrive.
T'es trop grand, mon pote. T'es un des vrais.
Je reprends l'argument de Renault pour toi, Marion. Parce que c'est vrai que sur l'argumentaire de Ronaldo, mais attendez, on lui a manqué de respect et tout ça. On lui demandait d'écouter les consignes et de rentrer à 3 minutes de la fin du match. Et là, Verstappen, il n'écoute pas les consignes. Et là, il y a deux points d'obligation.
C'est un rival. Giro, Bartoli, vous êtes à géométrie variable.
Est-ce que tu vois ce que c'est l'undercut, Renaud? L'undercut en Formule 1. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des stratégies où en fait, ton coéquipier de course, où t'as besoin de ton coéquipier. et que là, il est en train de se priver de son coéquipier pour la saison prochaine. Ça veut dire qu'il va lui rendre, et que si ça se joue à quelques points, parce que je peux t'assurer que ça va être, comme on voit un peu les machines qui sont en train de changer, elles changent chaque année, Mercedes va être compétitif l'année prochaine, et que le championnat à la fois constructeur et pilote va se jouer à quelques points. Et ben de ce côté-là, il a perdu par rapport à Mercedes s'ils sont compétitifs.
David Douillet.
Bla 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 bla.
Ben vas-y David.
Je vais faire du gros rouge qui tâche. Je suis pas très fier de ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même parce que je le pense quand même un tout petit peu.
J'ai peur.
Voilà.
Non, c'est cool. On n'est pas obligé de couper. On peut y aller. On est en direct.
Non.
Vas-y.
Tout va bien. Tout va bien. Mais quand même. Qu'est-ce que c'est que ce sport? Qu'est-ce que c'est que ces athlètes où les mecs demandent au casque, est-ce que je peux le doubler? Oui. Non, eh oh, t'es dans ta voiture. Si tu veux le doubler, tu le doubles. Tu vas avec tes qualités au charbon. Tu fais tout ce qui est dans ton talent.
C'est pas si simple.
Et je savais que t'allais me répondre ça. Évidemment, je savais que t'allais me répondre ça. Mais je suis désolé, Olivier. Sans déconner, quand t'es un vrai champion, tu vas pas pleurnicher pour que l'autre te laisse sa place. Tu vas à la castagne. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence entre Verstappen qui est champion du monde et Perez qui le sera probablement jamais. Voilà, c'est tout. Point
barre. Amen.
C'est quoi le truc, c'est qu'avec les deux là, il y a pas de discussion quoi, c'est fini. Hein.
Juste, moi j'aimerais savoir et j'aimerais faire avancer ce débat pour savoir si c'est un divorce. Clairement consommé ou s'il y a moyen quand même de rattraper les choses.
Non, c'est pas un divorce, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce que les faits sont là. Perez, il est très clair dans ses bottes. Verstappen a déconné, mais la star de l'équipe, elle est tournée autour de Verstappen, donc il est obligé de s'excuser, il est obligé de composer, parce que quoi qu'il se passe, il est dans la meilleure écurie et que tout le monde a envie d'y être et qu'il va être obligé de s'écraser.
La team Verstappen, vous n'avez pas évoqué quelque chose et ça m'étonne assez de vous pour essayer de tuer gentiment, évidemment, dans cette émission, vos adversaires. C'est que je vous ai rappelé ce Grand Prix de Monaco, Max Verstappen, il soupçonnerait son coéquipier d'avoir volontairement crashé sa voiture en qualification pour ne pas être devant lui. Donc Max Verstappen, il l'a peut-être mauvaise aussi. C'est un grand champion, il l'a peut-être mauvaise et on peut comprendre qu'il l'est mauvaise.
Et donc ça permet à la mère de Verstappen d'écrire sur un post Instagram que Checo Pérez a trompé sa femme, c'est ça? Ça lui permet de faire ça?
Alors, c'est
et
vrai.
Et après de l'effacer.
Si, ça
lui permet tout en fait.
Parce que les mamans s'y mettent.
Elle a pas précisé en quoi il l'a trompé.
Ah si, tu vas voir.
Quand
t'as une maman comme ça, t'as pas besoin d'ennemis.
Attendez, juste pour que les auditeurs comprennent bien, les mamans s'y mettent. La maman du pilote néerlandais Max Verstappen a donc laissé entendre que le Mexicain avait trompé sa femme. Elle a répondu à un tweet énigmatique, à une critique envers son fils. Elle a répondu. Et puis le soir, tromper sa femme. Voici ce qu'elle dit à propos de Sergio Pérez. Évidemment, elle a supprimé ce poste.
Qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, je veux dire.
Les couteaux sont sortis.
Non, mais par contre, c'est pas.
Après, on va nous dire qu'ils vont pouvoir se réconcilier.
Enfin, moi, pour moi.
Tu peux pas te réconcilier avec quelqu'un qui fait ça. Donc, en fait, je suis d'accord avec Olivier. Malheureusement, toute l'équipe de Red Bull est tournée autour de Verstappen. Et elle est obligée de s'écraser et de rien dire parce que de toute façon, s'il veut garder sa place, il est obligé de faire ça. Parce que bien évidemment, c'est Verstappen qui est la star. Et je suis complètement d'accord avec vous. Bien sûr que c'est un immense champion, il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien sûr que c'est un immense pilote, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu peux quand même avoir un tout petit peu de classe. C'est tout ce que je veux dire.
La grande classe sur l'avant-dernier Grand Prix, c'est quand même Mercedes. Dès le début, ils ont dit aux deux pilotes si... écoute bien.
Mais Olivier, tu veux te faire payer une bagnole ou quoi? Ça, tu viens de citer en 10 minutes de 30 fois Mercedes. Mais
parce qu'en fait, c'est comme ça. Ça veut dire que. En fait, tu sais que c'est la partie.
T'as cité McDo tout à l'heure.
Tu sais que Red Bull.
Red Bull,
ça tienne pas par contre. Hein, c'est quand tu parles d'écurie, tu parles de marque en Formule 1. Je te le rappelle quand même, Renault. Mais c'est pas grave. Parce que Ferrari, ils sont pas dans le sujet. La Ferrari, ils sont déclassés.
Il a évoqué Renault aussi. Il veut se faire payer de Renault.
Ce qui était important, c'est que dès le début de la course, les deux pouvaient gagner. Les deux pilotes Mercedes pouvaient gagner. Et ben la team, elle a dit débrouillez-vous, les gars. Soyez fair play quand même, mais jouez la carte à fond, celui qui gagne, il gagne.
Ok, vous avez pu vous exprimer sur cette polémique et cette affaire Max Verstappen, Sergio Pérez, c'est la fin du bras de fer des GG. Vous êtes très bien défendus tous, hein. Vous avez tenu votre rang avec des convictions sincères, franches. de l'affect. Tu l'as dit, Renaud Longuèvre. Certains y ont mis, et je connais ma Marion Parker, certains y ont mis un petit peu d'affect.
T'es le plus grand, Lewis, t'inquiète pas.
C'est une victoire de Sergio Pérez, de la team Marion Bartoli, Olivier Giraud.
Non mais
69%. Non, on est resté sur un statu quo.
61-39.
Vous n'avez pas progressé. Vous avez à un moment donné, à la mi-temps, progressé un petit peu.
C'était trop, je pense.
Finalement,
la fiche de début là que t'as repris.
Il faudrait qu'on parle un jour de l'arrivée de Skoda en F1, quand même.
Bien sûr. On cite toutes les marques comme ça, on est tranquille.
Et de Dacia.
Ok.
Et de Dacia.
Parfait, les copains.
Ouais, Dacia.
Tu connais Mercedes, Olivier, t'en penses quoi?
Oui, c'est bien, non?
Mercedes,
tu veux plutôt la classe 1, la classe B?
Non, mais il va falloir que tu viennes plus souvent parler de Formule 1. Parce que je t'assurer, tu vas l'entendre souvent quand même.
C'est quoi ta couleur préférée, Olivier?
Le gris.
Allez, voilà. 11h28, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport avec nos GG en grande forme, Renaud Longuèvre, Marion Bartoli, Olivier Giraud, David Douillet. Le reportage de la semaine, toute la semaine, nos envoyés spéciaux étaient à Doha avant le début de la Coupe du Monde. Demain, êtes-vous excités par cette Coupe du Monde? Les dernières informations, l'ambiance à la veille de la compétition, ce sera avec l'un de nos envoyés spéciaux. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h30. Les Grandes Gueules du Sport. RMC, les Grandes Gueules du Sport. 9h30.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les Grandes Gueules du Sport. Je sais pas vous, mais alors moi, vous m'avez épuisé, les Grandes Gueules. Vous êtes très en forme, très bon, mais je suis rincé. Maintenant, vraiment rincé. Toujours avec Renaud Longuèvre. C'est sa première. Ça te plaît toujours, Renaud?
Oh, tout va bien.
Tu te régales?
Oh, bah oui.
Avec David Douillet, avec Olivier Giraud, avec Marion Bartoli. Nous sommes, et vous êtes, chers auditeurs, en bonne compagnie ce matin.
C'est une très belle recrue, Renaud.
Exactement. Il, oh, est,
ouais,
il est bien.
Même si belle grande pas, gueule.
Même s'il aime bien Max Verstappen?
Mais non, mais chacun a le droit d'avoir ses opinions. C'est ça le principe de l'émission. On a été tous d'accord tout le temps. Franchement. Tu vois, ça serait, ouais, ennuyeux.
Alors parfois,
c'est d'avoir les convictions.
Parfois, ça me soulagerait, voilà, que vous soyez d'accord. J'aurais moins de travail. Non, c'était parfait. Bravo les copains, si vous voulez réagir à cette émission. Chers auditeurs, affrontez une GG. C'est dans une dizaine de minutes. Vous composez le 32-16. Tous les samedis, 11h30, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Et cette semaine, depuis le début de la semaine, nous sommes évidemment au Qatar pour le grand début demain de cette Coupe du Monde, à Doha, la 22e édition dans l'histoire. Pour un mondial, Nicolas Pelletier est avec nous, l'un de nos envoyés spéciaux. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Alors je le disais,
salut,
ça
Nico.
Fait
salut,
une semaine que tu es à Doha pour RMC. Quelle est l'ambiance sur place à la veille de ce match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur? Ce sera à suivre demain à 17h sur RMC, Nicolas.
On peut dire grande, massive, gigantesque, mais totalement vide depuis une semaine. Les rues de la capitale qatari n'ont pas du tout vibré quelques jours avant le début du Mondial 2022, comme c'est la coutume habituellement dans les pays qui accueillent une Coupe du Monde. L'exemple parfait, c'est le métro, d'une propreté impeccable. Le métro sonne totalement creux hier soir. Une petite agitation qui contraste avec le calme de la semaine dans les rues de Doha. Depuis lundi, on pouvait surtout croiser quelques journalistes étrangers, mais les endroits destinés au mondial paraissent disproportionnés. Et ce sont surtout les grues, les engins de chantier, les petites mains du mondial qui étaient présents à Doha cette semaine. Et ça questionne les quelques supporters étrangers déjà présents sur place.
Je me dis qu'ils ont peut-être un petit peu de retard. Après, il y a quand même les stades, les 8 stades, ils sont finis.
Il ne reste plus que quelques jours et on voit encore beaucoup d'ouvriers. Espérons que tout soit prêt à temps.
Pendant des mois, l'organisation a répété que tout sera prêt pour le mondial. Les 8 stades sont totalement prêts. Et pour les finitions, cet expatrié à Doha depuis 5 ans, Jean, connaît déjà la solution.
Tout ça doit être fini pour la Coupe du Monde. Sinon, ils vont cacher en mettant des logos de la Coupe du Monde tout autour.
Pour trouver un peu d'ambiance avant ce mondial, il faut se rendre dans le Souk Waqif, l'endroit le plus animé de la ville. Des défilés de supporters étrangers, brésiliens, argentins et même des Français. Sauf que quand on s'adresse à ces supporters, par exemple les fans des Bleus, aucun ne parle français. Le groupe est largement composé de fans d'origine indienne.
Nous ne sommes que des fans de l'équipe de France. Depuis la période Zidane en 96 ou 97, nous avons commencé à aimer l'équipe de France et nous avons continué jusqu'à maintenant et la nouvelle génération Mbappé. Nous allons aller au stade. J'ai des billets pour France-Danemark. Tout le monde a au moins un ticket pour aller voir la France. Nous serons là pour encourager les Bleus comme si c'était notre propre nation.
Sporting fans.
Actually, you know, we are Indians loving too much football.
Nous sommes juste des Indiens aimant beaucoup le football. Chez nous, encore plus à l'approche de la Coupe du Monde, tout le monde supporte une grosse équipe, la France, l'Argentine ou le Brésil. On va même installer un grand écran et tout le monde regardera les matchs ensemble. À Kerala, nous avons créé un groupe de supporters de la France.
There is where big group is there, French Football Fans Club India.
Ces supporters indiens ont déclenché de vives réactions. Leurs vidéos ont fait le tour du monde et beaucoup de supporters présents sur place se posent des questions. Ont-ils été payés par le Qatar pour mettre l'ambiance? Pour l'instant, aucune réponse. Les Bleus à Doha pourront donc compter sur le Football Fan Club India France. Ça regroupe des Indiens, fans des Bleus depuis plusieurs années. Ils vont se fondre dans la masse des 10 000 supporters français attendus sur place pour la compétition. Et ces supporters, comme les joueurs, devront surtout braver la chaleur. Il a fait en moyenne 35 degrés en journée à Doha cette semaine. Des matchs auront lieu en journée. La semaine prochaine, la température devrait tourner autour des 28 degrés. Et jeudi, lors du premier entraînement des Bleus à Doha, les gourdes étaient de sortie. Olivier Giroud, l'attaquant des Bleus.
Ici, forcément, bon, ça reste 30 degrés, mais c'est vrai que c'est une chaleur assez étouffante. Quand on est arrivé hier soir, il faisait déjà très lourd. On n'est pas trop sorti à l'extérieur l'après-midi, mais c'est sûr qu'il va falloir s'habituer.
Chaleur ou pas, en tout cas, la veille du début de la Coupe du Monde, les Qataris rencontrés depuis une semaine ont le sourire aux lèvres, impatients de que cette cérémonie d'ouverture débute.
Personne ne pensait qu'on pouvait organiser un mondial dans notre pays. On a travaillé très dur, on a travaillé pendant 12 ans pour que ça ait lieu, et là on y est.
C'est tellement excitant, on peut vraiment être fier de nous. Moi j'ai mes billets pour le match d'ouverture.
Personne ne connaît vraiment notre pays, on est tout petit. Le Qatar, c'était les chameaux, c'était le désert. Avec la Coupe du Monde, les gens vont venir et ils vont se rendre compte de la réalité. Maintenant, on va être amis avec le monde entier. Ça va changer, les touristes vont venir.
Des matchs qui seront sans alcool à l'intérieur des stades, comme dévoilé hier sur notre site. Il faudra se rendre dans les fan zones ou dans les hôtels pour en consommer. Un énorme revirement de situation, alors que début septembre, le patron de Qatar 2022 annonçait que tout était prêt pour l'alcool dans les stades. Le Qatar va accueillir une grande Coupe du Monde et le monde arabe va vivre un grand moment de son histoire. C'est en tout cas les deux messages diffusés hier soir par le comité d'organisation.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions et pour ce reportage. Les GG, j'ai une question à vous poser. Vous avez bien compris l'ambiance en ce moment au Qatar. Les supporters vont arriver aujourd'hui. Il y aura donc forcément beaucoup plus d'ambiance désormais à la veille de cette Coupe du Monde. C'est donc demain que ça débute. Êtes-vous excité par cette Coupe du Monde? Oui ou non? Olivier Giraud.
Pas pour l'instant.
Mario Bartoli.
Oui, surtout bien sûr pour l'équipe de France.
Renaud Longuèvre.
Non.
David Douillet.
J'aimerais tellement pouvoir dire oui, mais pour l'instant j'y arrive pas, je suis désolé.
David, tu commences, pourquoi t'y arrives pas?
Je sais pas, j'arrive pas à... D'abord, sans doute parce que la période, on est au mois de novembre. Je sais pas, voilà, c'est un contexte, on n'est pas habitué à ce contexte de temporalité. Et puis, il y a eu tellement de polémiques jusqu'à maintenant que, tu vois, si t'es une éponge sans réagir par rapport à tout le bruit et l'ambiance médiatique qu'il y a pu y avoir sur la pertinence et puis la crédibilité d'organiser une Coupe du Monde au Qatar, t'as même honte de la regarder, quoi. Tu vas être accusé de regarder la Coupe du Monde au Qatar pour toutes les raisons qu'on connaît autour de cette table. Donc, je sais pas, je suis honnête avec vous, pour moi la mayonnaise elle prend pas, quoi. J'ai pas l'impression d'être dans une Coupe du Monde, j'ai pas l'impression, et pourtant Dieu sait si j'aime le foot, le maillot de l'équipe de France et la compétition, mais j'arrive pas à m'y coller. Alors peut-être qu'au premier match, au deuxième match, quand il y aura des histoires, quand il y aura des moments émotionnels forts, peut-être que ça va démarrer, mais là aujourd'hui, je suis désolé, j'y arrive pas.
Ok, tu parles avec le cœur et pour toi tu n'y arrives pas. Marion Bartoli.
Encore une fois, on a eu ces débats précédemment, mais quand la Coupe du Monde était en Russie, là par contre ça posait aucun problème et on s'est tous enthousiasmés derrière l'équipe de France. Donc je vois pas pourquoi juste là maintenant on se dirait oui, alors effectivement pour tout ce que, et je vois très bien ce que tu veux dire David, pour tous les problèmes qui ont été cités par la presse, etc. Au début de cette Coupe du Monde, non, on va pas s'enthousiasmer. Ça reste du sport, on en a parlé tout à l'heure. Faut faire la différence entre un pays souverain qui a ses règles, etc. Ils l'ont eu cette Coupe du Monde, c'était il y a 10 ans. S'il fallait pas pas leur donner. C'était il y a 10 ans qu'il ne fallait pas prendre cette décision. Il y avait d'autres candidatures. Maintenant qu'elle y est, je ne vois pas pourquoi on ne s'enthousiaserait pas derrière l'équipe de France, qu'on ne regarderait pas une grande et certainement une des plus grandes.
J'aimerais bien, Marion.
Une des très grandes épreuves sportives avec les JO et qu'on regarderait pas ça comme du foot. Et justement, peut-être que ça va faire avancer le Qatar vers une révolution plus globale. Et c'est ce qu'on espère aussi, c'est que le sport peut-être à travers une ouverture avec beaucoup de supporters étrangers qui vont venir, ça va faire finalement avancer ce pays. Mais une fois que ça y est, une fois que ça a été octroyé, pourquoi maintenant on dira, non, on va rien regarder du tout. Bien sûr qu'on va la regarder, bien sûr qu'on va soutenir l'équipe de France. Et pour moi, ça reste une Coupe du Monde. Et oui, je m'enthousiasmais parce que j'adore le foot, j'adore regarder du sport et je suis les Français, bien sûr.
Ok, Renaud Longuet.
Moi, je rejoins ce que David a dit, donc je vais pas le redire. Par contre, ce que je peux ajouter, moi, c'est sur le plan sportif pur. Mais ça rejoint aussi la temporalité, c'est que moi, je vais être curieux parce qu'on a toutes les statistiques, les vitesses des joueurs, le nombre de kilomètres parcourus. Il n'y a pas eu, comme l'a dit Olivier précédemment dans la matinée, une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques au handball. C'est une préparation en altitude avec un stage préparatoire où on prépare la machine,
L'histoire, quoi.
Voilà. Mais là, il n'y a pas tout ça. Les gars, ils étaient sur la pelouse de Ligue 1, PSG Auxerre. Ils prennent l'avion, boum, ils jouent match de Coupe du Monde. Donc, moi, je suis curieux du niveau sportif parce que j'ai mon œil. C'est ce qui me fait kiffer. C'est de voir le rendement athlétique des joueurs, de voir aussi quelles tribus ils vont payer aux blessures et tout ça. Et franchement, je ne pense pas que ça va être. J'espère me tromper. Il y aura la motivation parce que tout le monde veut être champion du monde, mais je suis pas sûr que sur le plan sportif et sur le plan athlétique il y aura le rendement qu'on voit dans des coupes du monde en été.
Ok, une interrogation sur le niveau. Ok, Renaud Longuèvre. Olivier Giraud.
Une interrogation parce que là on parlait des supporters tout à l'heure, tout le monde rigole de ça, mais quand même il faut prendre
sur les faux supporters.
Oui, mais, avec les oui, faux mais supporters. Il faut prendre en compte que combien il y a d'habitants au Qatar.
3 millions, je crois. Non,
c'est non, tu peux descendre.
Non, c'est de Qatari, tu veux dire.
Oui, de Qatari, oui.
Ah oui, tu m'as demandé la population.
C'est hyper important.
2,6 la population.
C'est hyper important.
Mais avec beaucoup d'étrangers.
Ouais. Et c'est hyper important. Donc, en fait, ils sont obligés d'utiliser la population qui est aussi dans le pays pour pouvoir remplir ces stades. C'est-à-dire qu'une Coupe du Monde avec des stades vides, on a déjà vu des trucs comme ça. C'est horrible. Et donc, à un moment, ils ont cette chose de penser qu'il faut remplir les stades.
Quand ils ont ouvert la billetterie, ils ont vendu 90% des billets en l'espace de même pas une semaine.
Mais je suis d'accord. Mais on attend de voir ça aussi. On attend de voir ça. Et donc, l'anticipation, tu sais pas quand tu vas tout vendre.
Je suis d'accord.
Et donc, l'anticipation, c'est-à-dire que ceux qui vivent sur le pays, il faut qu'ils participent aussi. Et ça a toujours été comme ça au championnat du monde de handball, c'était la même chose. C'est exactement même chose. Alors,
la Coupe du Monde, c'est la liesse populaire.
Mais les supporters, ils sont à Dubaï, ils vont faire les allers-retours par avion chaque jour. Il n'y a pas assez d'hôtellerie sur Doha.
Je peux t'assurer qu'ils ont beaucoup.
Ça coûte trop cher.
Ils ont beaucoup, beaucoup construit et ils savent descendre les prix quand ils font les
descentes. Pas assez.
C'est sûr que par contre, il y a pas trop de Formule 1, de trucs comme ça. C'est comme chez nous, des trucs à bas prix. C'est pas trop le truc. Mais cette Coupe du Monde, en fait, moi, ça me fait penser, et des fois, on oublie, ça me fait penser à 98. Et au début, alors que c'était chez nous, tout le monde a oublié. Qu'au début, personne n'y croyait. Déjà, personne ne croyait en notre équipe de France. On pensait qu'Aimé Jacquet, il avait fait juste de la soupe et qu'on allait se faire sortir super vite. Petit à petit, on est rentré là-dedans. On est tous devenus fous. Et que c'est là où c'est beau le sport, c'est que grâce au sport, à un moment, quand les acteurs ils vont se mettre sur le terrain, c'est à eux de nous donner envie de la regarder, cette Coupe du Monde.
Et c'est à partir de demain, 17h, à suivre en direct en intégralité sur RMC. Tous les matchs les matchs commentés sur votre station préférée. Juste un point de précision, le Qatar qui a réagi à cette polémique sur les faux supporters, nous rejetons totalement ces affirmations qui sont aussi décevantes que peu surprenante. Fin de citation. 11h45, on revient dans quelques instants. Il y a eu beaucoup d'appels. C'est dire si l'émission a été bonne. Beaucoup d'appels pour vous, les GG, les auditeurs veulent vous affronter. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48 de retour dans les grandes gueules du sport à partir de midi, les paris RMC. Nous allons justement nous mettre en mode Coupe du Monde et parier sur le vainqueur de la compétition, le meilleur buteur, d'autres paris annexes sur la compétition, cette Coupe du Monde au Qatar. N'hésitez pas, c'est à partir de midi. Juste avant les auditeurs, Renaud, j'aimerais que tu nous contes une histoire sur ces soi-disant faux supporters au Qatar, car toi tu l'as un peu vu de tes yeux vus. Raconte-nous.
Ah, complètement, ouais. J'ai vu de mes yeux vus. On a fait les championnats du monde d'athlétisme en 2019, donc à Doha au Qatar, et puis le championnat du monde commence avec les sprinteurs, donc les grandes stars américaines, et le stade était quasi vide, il n'y avait quasiment personne. Donc la presse et les médias ont commencé à allumer avec photos à l'appui, qu'est-ce que c'est, on fait un championnat du monde ici, mais il n'y a pas de liesse, il n'y a rien, les tribunes sont vides. Et on a vu débarquer des cas entiers d'Indiens, de Sri Lankais, encadrés par des Qatariens, pour aller garnir les tribunes. Je l'ai vu de mes yeux vus. Après, je ne sais pas ce qui va se passer pour le football. Mais oui, ça, c'est du vécu.
Mais ça existe. Ok, merci beaucoup pour cette précision, mon cher Renaud. C'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC.
Les grandes gueules du sport et vous.
Michel nous appelle au 32-16. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Michel, tu veux t'attaquer à qui ce matin? Et merci de ta fidélité à cette émission. Qui va en prendre pour son grade?
Je crois que c'est David et Renaud.
Et Renaud, très bien. Sur le sujet Verstappen, il défendait Verstappen.
J'ai deux sujets qui se regroupent après. Il y en a un premier où David fait blablabla, s'il veut doubler, oui. Il a qu'à prendre son truc, tac, il double et il fait ce qu'il veut, quoi. Et il dit que c'est une pleurnicheuse, il n'y a pas besoin d'être une pleurnicheuse pour faire ci ou pour faire ça. Je vous rappelle quand même, Grand Carl, l'année dernière, je ne pense pas que David regarde beaucoup de Grand Prix de Formule 1. L'année dernière, plusieurs fois Verstappen est là en train de passer des messages au micro pour que à son équipe, pour que genre Hamilton prenne des sanctions, pour qu'il puisse doubler parce qu'il n'arrive pas à doubler autrement. Donc pour moi, la plus grosse pleureuse, c'est pas Pérez, que je vois pas souvent, mais c'est plutôt Verstappen. Donc ça, c'est le premier point.
J'ai jamais dit que c'était une pleureuse.
En gros, tu nous dis, ouais, s'il veut doubler, en gros, il n'écoute pas son équipe, et il y va, il double, et puis c'est tout, quoi. Déjà, ouais. C'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a des consignes d'équipe, et puis il se fera, excuse-moi l'expression, il se fera défoncer après, hein, si jamais, parce que un moindre petit doublement, un doublement d'un coéquipier, si jamais ça s'accroche, alors là, le deuxième coéquipier, ils en prennent plein son grade, quoi.
Ok, le deuxième point abordé.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi la différence entre un Ronaldo, donc un super joueur, soi-disant, un super joueur, qui refuse de rentrer à 3 minutes de la fin d'un match tout pourri, déjà, parce que la victoire était déjà faite à Tottenham, et un Verstappen qui refuse, qui respecte pas les consignes d'équipe. C'est quoi la différence?
Et on en parlait d'ailleurs dans cette émission.
Il n'y en a aucune, sauf que d'un côté, Ronaldo, il en prend plein pour son grade, c'est inadmissible, c'est machin, nanana. Et l'autre côté, c'est, l'autre, c'est un cheval de course, il a un super ego, et je peux pas me rabaisser. Non, il peut pas se rabaisser, c'est pas possible. Alors, c'est quoi la différence? Il faut m'expliquer, là.
Ok, Michel.
Parce que je pense que les deux sont pareils.
Ok, David va prendre la main maintenant. Vas-y, mon David.
Ah, c'est... Je comprends l'amalgame et je comprends l'état d'esprit de Michel, mais c'est deux choses différentes. Ces deux univers différents, et puis c'est deux contextes différents. On a d'un côté un champion qui est sur sa fin de carrière et qui veut pas se l'avouer, il veut pas prendre cette décision là lui-même, et puis de l'autre côté deux gars qui font partie d'une écurie où, qu'on le veuille ou non, mon cher Michel, tu as un dominant et un dominé, et c'est comme ça. C'est deux mâles alpha, mais il y en a un qui doit baisser le museau, et c'est comme ça. Sinon, ça fonctionne pas. Et s'il veut montrer les crocs, il se débrouille tout seul, il faut qu'il double. Et c'est d'ailleurs comme ça que tous, depuis qu'ils sont tout petits, arrivent à montrer qu'ils sont capables d'arriver jusque au firmament de la F1 et montrer que ce sont des grands pilotes. Voilà. Et c'est cet esprit-là que je trouve difficile à déconnecter pour des gens comme Verstappen, qui, c'est vrai, au regard d'Hamilton, qui est quelqu'un de peut-être plus abouti, plus sage et aussi un peu plus vieux, est encore très jeune et très brutal dans ses réactions. Ni plus ni moins. Et je trouve que aller quémander le fait qu'il double... Voilà, je me remets à l'essence même des choses. Voilà.
On l'a compris. Merci Michel d'avoir été avec nous et d'avoir composé le 32-16 et d'avoir participé à cette émission.
Je peux répondre sur Ronaldo ?
Oui, vas-y, rapidement.
Juste, Michel, ton analyse, à mon avis, c'est pas le même tableau. C'est qu'il y en a un qui est performant et l'autre qui ne l'est pas.
Ok, parfait. Voilà, c'était précis, c'était court. José nous appelle au 32-16. Ne bouge pas, David, c'est double ration pour toi.
Super.
Salut, José. José, oui, José, bonjour. José. Tu es en direct sur RMC dans les grandes gueules du sport. Tu veux t'attaquer donc à
David Douillet.
Voilà, bien sûr.
Voilà.
Sur quel sujet?
Oh, pour une fois, je suis content ce matin.
Alors, attaquer, c'est un grand mot. Hein.
Si tu vas les prendre à Yves.
Non, mais vas-y, attaque-moi.
Attends,
je t'en supplie.
Il est sadomaso pour le savoir, José.
C'est José.
José.
Oh là là, excusez-moi.
Alors, commence pas. José, t'y vas. Vas-y à fond, attaque-moi un peu.
Non, mais vous inquiétez pas. Généralement, j'y vais à fond, mais clairement. Je voulais apostropher par rapport à. Et c'est ce qui m'a fait réagir, c'est quand il a dit que. La suite allait être triste parce que donc c'est à propos de Ronaldo quand il part. Alors je voulais juste rappeler quelques faits. Alors juste pour info, j'ai 57 ans, d'accord. Donc je suis plutôt quelqu'un avec de l'expérience dans mon travail. Je manage un certain nombre de personnes, hein. On pourrait me prendre pour quelqu'un de vieux, ce qui est normal.
Non.
Alors moi, maintenant, je vais revenir sur Ronaldo. Il y a quelques années, quand ils l'ont fait revenir à Manchester, alors si je me rappelle bien, parce que je suis quand même Manchester depuis longtemps, à l'époque, leur résultat n'était pas très glorieux. Ils ont fait un joli coup de buzz en le faisant revenir. Donc ça, c'est le premier point. Donc je trouve que les gens perdent vite la mémoire. Et ensuite, il y a quelque chose qui est clair, c'est que Ronaldo, pour arriver au niveau où il a été, et ça, croyez-moi, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est en ayant des valeurs. Valeur de l'effort, valeur de le sens du résultat, et le fait de pouvoir faire beaucoup de concessions, même s'il a gagné beaucoup d'argent. Vous êtes un ancien sportif, donc vous devez le savoir.
Où est-ce que tu es?
Ce que je voulais dire, c'est que...
Ah bah oui, mais José, si on prend 4 minutes d'introduction, après c'est compliqué, parce que là, moi j'ai la pub, mais il faut les payer, les grandes gueules.
Moi, je suis chaud, là.
Vas-y, David, réponds à José.
Non, mais la question, c'est quoi, en fait? Vas-y.
Non, c'est juste par rapport à la notion de valeur. Ten Hag, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Je le connais pas, moi. Je le connaissais pas.
Pose-moi la question, s'il te plaît.
Voilà.
Pose-moi une question.
Alors, pourquoi?
Dis-moi ce qui va pas.
En fait, ce gars-là, Ronaldo, il a des valeurs, donc de toute façon, il y a des gens qui se souviendront de lui, et il y aura.
Je suis trouvé,
façon,
José,
des gens qui se rendent sur José, côté, donc
j'ai
je
trouvé.
Vois pas pourquoi sa vie serait triste.
J'ai trouvé, c'est parce que tu disais, David, que.
Que sa vie est triste.
Ouais, parce qu'il n'allait jamais retrouver quelque chose, vu ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et de sentir la chose. Vas-y.
José, moi je connais, justement, tu parlais, apparemment tu diriges des équipes, tu es peut-être un chef d'entreprise, je ne sais rien. Mais en tout cas, toutes celles et ceux qui sont. C'est un état d'esprit, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ont l'impression de détenir un espèce de pouvoir absolu, tu vois, et c'est un peu son cas, parce que 500 000 de followers, de l'argent, etc., adulé tout le monde, malin. Mais sa carrière va se terminer, il va démarrer une autre vie. S'il est nostalgique de ce qui s'est passé avant, et s'il critique tout le monde, et s'il part sur un démarrage de sa nouvelle vie en ayant cette coloration du gars qui a réglé ses comptes, etc. C'est pas la meilleure manière de démarrer. C'est-à-dire que après t'auras pas envie de quoi qu'il fasse, t'auras peut-être pas envie de d'aller vers lui, tu vois. Alors que un garçon comme lui devrait se tourner vers, j'ai pas de leçon à lui donner, mais la générosité, j'ai du temps pour vous, je vous accueille les bras ouverts, ouais, ok, il y a des gens qui ont pas été sympas avec moi, et c'est sans doute vrai tout ce qu'il dit, mais j'en tiens pas rigueur, voilà, tant pis pour eux, ils ont rien compris, etc. Tu vois, c'est une autre forme d'état d'esprit qui permettra d'avoir autour de lui des gens qui sont attirés par du positif et pas repoussés par des ondes négatives. C'est tout ce que je dis. Et je pense que si il continue comme ça, il finira tout seul. Comme comme j'ai vu des chefs d'entreprise finir tout seul de la même manière.
On va laisser José tranquillement reprendre la route parce que j'ai cru entendre un petit clignotant ou un warning. Merci beaucoup José d'avoir été avec nous et merci de ta fidélité. Le 32-16, n'hésitez pas pour réagir à cette émission. Merci Renaud Longuèvre, tu reviens quand tu veux, tu reviens vite.
C'était un vrai plaisir.
Tu vas repartir faire travailler cette équipe israélienne en athlétisme. Toi qui as été de nombreuses années aux côtés de l'équipe de France, on est très heureux de t'avoir dans les grandes gueules du sport. À très bientôt.